Cette semaine, dans le balado, on tombe en amour, on tombe en amour, on tombe en amour et on remonte le temps et on tombe un petit peu en amour. Bienvenue à mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Je pensais que tu avais sauté comme un vinyle ou comme un CD plutôt. Hein?
Ça aurait pu, en fait, on n'est pas le 14 février, ce n'est pas la Saint-Valentin, mais pourtant, je pense que l'amour lit tous les films de la semaine.
Ouais, c'est ça, au premier degré finalement. Ouais. Okay.
Donc, une semaine assez chargée pour tous les goûts avant d'attaquer les sorties.
C'est ça, pas pour tous les thèmes, juste pour tous les goûts.
Effectivement. Okay. Donc, petit tour d'horizon d'actualité. Tu me laisses aller?
Ah oui, je te laisse aller.
Vas-y. Parfait. Bon, ben allons dans l'actualité direct parce que le nouveau film d'Andy Muschietti, The Flash, prend l'affiche cette semaine. Donc, on a annoncé hier, peut-être suite au premier échos positifs de The Flash, que Andy Muschietti va rester dans l'univers de DC Comics,
okay.
Alors qu'il va réaliser l'adaptation de Brave and the Bold, qui est finalement un nouveau film de Batman, mais Batman avec Robin, cette fois-ci, qu'on n'a pas revu à l'écran depuis le Batman Forever.
Chris O'Donnell.
Batman and Robin, effectivement. Ouais, ouais. Donc, on l'avait vu deux fois. The Brave and the Bold est une adaptation quand même d'une bande dessinée, d'une série de bande dessinée là, qui avait été bien appréciée par le scénariste Grant Morrison, où le Robin était Damien, donc Damien Ra's al Ghul, qui était le fils de Talia. Interprété par Marion Cotillard.
OK, alors que nous, dans ce qu'on voyait, je pense pas qu'elle avait un enfant. Là, mais
non,
bon,
effectivement.
Grand univers des bandes dessinées.
Voilà, donc dans l'univers de BD, Batman avait une liaison avec Talia et ils ont eu un enfant qui ne savait pas.
C'est son fils?
Ouais, c'est ça, qui prend l'identité de Robin. Donc, c'est ce qu'on promet dans cette version-là. On n'a pas de date annoncée encore. On sait que le premier film là, de cette... renouveau d'univers d'ici va débuter en 2025 avec le nouveau Superman de James Gunn, Superman Legacy, qui a confirmé qu'il réaliserait donc en encore quelques années devant nous.
Mais là, on dirait que ça vient de me frapper, là. Mais tu sais, Robin, là, c'est un merle. Un Robin, c'est un merle.
Ouais.
Pourquoi il a pas l'air d'un oiseau du tout? Ben genre, c'est pas toi qui as la réponse, là. C'est toi qui l'as inventé, mais je veux dire, d'habitude, quand ils ont
de
un...
costume
ouais,
ou tout ça,
c'est ben, ça. Ben... Il y a une cape jaune, puis c'est comme...
Bon, il a donné des couleurs flamboyantes,
c'est ça, c'est vraiment pas ça, là, un merle.
Non, mais là-bas, je pense que le costume est d'inspiration du cirque. Parce que dans la vraie mythologie de la bande dessinée, Dick Grayson est un acrobate. Et donc, ses parents l'ont tué, adopté par
comme dans les Batman de Joel Schumacher.
Effectivement. Donc, je pense... Il a gardé justement plus les couleurs de son costume d'acrobate de cirque.
Eh ben, OK.
Sinon, gros changement de calendrier chez Disney. On a brassé les cartes cette semaine. Donc, devancer des films, repousser d'autres. Je pense que le plus substantiel, c'est concernant la franchise Avatar. Donc, le troisième film devait sortir en 2024, l'an prochain en décembre. On l'a repoussé en 2025 année.
Okay.
Donc, il faut être un peu plus patient. Mais c'est surtout les films 4 et 5 là, qu'on a repoussé de 3 ans chacun. Donc, à l'origine, qui devait être 2026 et 2028, ce sera 2029 et 2031.
Okay.
Je dis bien 2031.
Tabarouette.
Écoute, on souhaite que Cameron garde la forme et qu'il se rend jusqu'à la fin.
Est-ce que les billets sont déjà en pré-vente?
Écoute, je sais pas. Ça va être à suivre. Mais ouais, quand même. Écoute, je sais pas qu'est-ce qui justifie ça. Est-ce que c'est juste la post-production? Ben, en fait, je pense qu'on met 4 et 5, on doit vraiment compléter des scènes. Là. On avait tourné que de petites séquences. Mais bref, il va falloir... être patient.
Je pense que c'est dans un... Je te laisserai revenir, mais dans un autre média, mais Medium, en fait, ils vont faire des jeux vidéo d'Avatar, je pense. C'est ça qu'ils ont annoncé aussi.
Okay.
Fait que ça leur peut-être donne un time frame, ça leur permet d'étirer genre la sortie des films et de faire vivre l'univers davantage. Il me semble que j'ai pas creusé là-dessus, mais j'ai entendu ça d'une oreille.
Ben, c'est très logique, suite au succès quand même de Harry Potter Hogwarts Legacy, je pense, au niveau, c'est ça. Donc c'est un peu la mode, ces jeux immersifs-là. Donc probablement que ça risque de sortir entre le 3 et le 4e film, justement.
Je me demande si ça sera même pas avant le 3e, moi, justement, dans 2024, peut-être. Là.
Alors, à suivre. Voilà. Sinon, ben pour les films Disney, les amateurs de Deadpool, vous serez heureux d'apprendre que le film va être devancé. Celui-là, alors au lieu de septembre 2024, ça va être en mai 2024. Okay. Par contre, les deux nouveaux Avengers, Avengers Kang Dynasty et Secret Wars, eux, sont repoussés d'un an. Donc, Kang Dynasty en mai 26 et Secret Wars mai 27. Et ça, ben, si on ne fait pas des changements.
Ben, c'est ça aussi, le temps de voir qu'est-ce qu'ils font avec Kang, avec Jonathan Majors. Bon.
Mm-hmm. Et ouais, ça ne s'annonce pas bien parce que de nouvelles allégations sont sorties.
Ah, en plus, OK. Bon.
Ouais, ça permet que d'autres femmes.
Je ne pense pas que Disney vont jouer avec ça un peu, là, d'après moi.
On pourrait s'attendre à un changement de casting dans les prochaines semaines. Je ne saurais pas.
Ça va être Jamie Foxx.
Ouais.
Ça pourrait.
Du même côté, ben, on a confirmé que le nouveau Alien, on avait juste effleuré parce qu'on n'était pas certain s'il était destiné sur la plateforme ou sur les grands écrans. Mais finalement, Alien Romulus, qui est le titre temporaire, je ne sais pas si ça va être le titre final, donc prendra vraiment l'affiche sur les écrans en août 24.
OK.
Alors, ça, j'ai quand même très hâte de voir. C'est Fede Alvarez. Qui nous avait donné le remake de Evil Dead, Don't Breathe, qui est un très bon petit thriller, honnêtement. Donc, je pense que c'est bien d'avoir du sang neuf, que Ridley Scott prenne une certaine distance après avoir massacré un peu la franchise, l'avoir quasiment détruite. Donc,
une note personnelle.
Voilà. Mais donc, pour l'instant, il ne semble pas avoir de lien avec les autres films. La prémisse, ça se passe sur une autre planète qu'on ne connaît pas, avec une communauté, je prends vraiment de terriens ou quelque chose comme ça.
Dans la temporalité, on serait après les replays et tout ça?
Ça, on ne le sait pas encore.
OK.
Donc, à suivre. Et puis, pour les amateurs de Star Wars, on a confirmé finalement les dates des deux prochains Star Wars, ce qui est quand même un peu particulier, alors qu'ils sortiront les deux la même année. Un mois de mai et l'autre au mois de décembre 2026.
Ça, c'est-tu à suivre? Ça va-tu être des
non, non, c'est vraiment... Écoute, les trois films qui avaient été annoncés il y a un mois ou deux à peine étaient vraiment trois films séparés même à différentes époques. Là. Donc, un qui raconte la genèse des Jedi. Puis après ça, on avait un avec Rey Skywalker qui revenait, Daisy Ridley. Puis le troisième, c'était une espèce de conclusion possible à la série de Mandalorian puis tout l'univers qu'on a sur la plateforme Disney. Là.
OK.
Mais donc, on ne sait pas lesquels des deux sur les trois. Ils ont juste confirmé qu'il y aurait deux films. Écoute, je doute qu'il va y avoir... qu'ils vont garder ces dates-là, là, deux Star Wars. La même année, je pense que c'est un peu gourmand.
Mais non, en plus, il avait dit qu'il allait comment prendre une pause et tout. Fait qu'ils ne reviendront pas pour les sortir six mois comme ça. Là.
Donc, prenez pas ça pour du cash. Comme on dit, ça risque de probablement changer.
Excuse-moi, tu viens de le dire, mais c'était-tu mai 2024? 2026, puis décembre 2026. Ouais. OK, c'est moins pire. Je pensais à l'inverse, là, mais dans ce cas-là, c'est plus. Ouais. Début d'été, puis le Noël d'après. Là. Mais oui, c'est quand même audacieux. Là.
Un petit peu. Ces dernières nouvelles, avant de passer peut-être à la bande-annonce. Écoute, on connaît Tom Cruise pour le film La Guerre des Mondes.
Oui, c'est le premier nom qui nous vient en tête quand on pense
là,
à Tom Cruise.
C'est La Guerre des Écrans. Parce que Tom Cruise est un petit peu...
La Guerre des Écrans IMAX, hein, c'est ça?
Oui,
j'ai entendu dire ça, oui.
Donc, évidemment, vu que Maverick avait connu un grand succès sur le format IMAX, Tom est un peu déçu que Mission Impossible sera juste une semaine à l'affiche.
Faut pas qu'il le prenne personnel.
Non, je sais bien, mais donc IMAX ont confirmé Oppenheimer qui sort le 21 juillet, Mission Impossible le 12, et ils ont vraiment réservé les écrans IMAX pour trois semaines.
En plus,
Donc c'est un engagement de trois semaines avec Oppenheimer. Alors, fait que Tom est un peu déçu. C'est quand même audacieux, mais je ne sais pas si Oppenheimer, trois semaines à plein écran sur IMAX, c'est justifié.
Ouais, pour un drame de guerre.
Effectivement, là. Donc,
drame historique, c'est ça.
On verra qui sera le vainqueur, mais...
C'est juste parce que j'ai l'impression, et on me corrigera, que les gens de chez IMAX me corrigeront, mais que c'est surtout parce que Nolan a lui-même une relation privilégiée avec IMAX depuis toujours. Fait que je pense que peu importe le film, on lui donne ça, mais pour eux-mêmes, dans le calendrier, ça doit pas être optimal. T'sais, le défaut et la force des écrans IMAX, c'est qu'ils ont un seul écran. Puis leur programmation est commise longtemps en avance comme ça. Fait que si Mission Impossible cartonne, puis là, ils font yes, 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 mais là, la semaine suivante arrive, on sort Oppenheimer, puis ça marche pas pantoute, ben là, t'es pogné pendant 3 semaines de pain noir.
Non, tu l'as bien dit, c'est la raison qu'ils ont évoqué, évidemment, leur lien avec Nolan, qui, évidemment, tourne en caméra IMAX depuis longtemps, promouvoit aussi ce format-là de pellicule, de tournage et tout ça. Donc, mais je pense qu'ils auraient sûrement aimé qu'il repousse peut-être la sortie, là, qu'il la tasse d'une semaine de plus, peut-être.
Ouais, c'est ça, parce que là, c'est très dommage pour eux d'avoir ces deux films-là à une semaine d'intervalle. Je serais pas surpris qu'on le saura jamais vraiment, mais tu sais, Mission Impossible devait prendre l'affiche le vendredi 14 juillet, puis ils ont été devancés au mercredi 12. C'est pas mal le plus tôt que tu peux faire pour sortir ton film, là, deux jours avant. Là. Il y a le Spider-Man qui l'avait sorti un mardi à un moment donné, mais je pense que c'était le 4 juillet, fait que ça avait le dos large, là, le fête d'indépendance américaine, là, mais tu sais. Pour les autres distributeurs, c'est pas super cool là, de sortir ton film en début de semaine pour te faire croire que c'est le week-end suivant.
Mais non, ça tu viens couper.
Fait que ça doit être, ils ont gagné 2 jours d'écran IMAX comme ça. Là. Mais en tout cas, ben, c'est 2-3 films. Puis là, on parle pas de Barbie au travers de ça. Est-ce que ça serait aussi un pied de nez de Warner? Parce que Nolan a peut-être toujours, ou en tout cas très longtemps, été avec Warner Bros. Je me souviens pas de l'époque là, de...
Ouais, depuis toujours, en fait. C'est même, son premier film qui n'est pas avec Warner.
Memento, c'était Warner. Ouais. OK, c'est ça. Celui-là, j'étais pas sûr. Là, mais à partir des Batman, je le savais. Puis là, finalement, ils s'entendent pas. Nolan est vraiment pas content du traitement de Tenet et blablabla. Kit s'en va chez Universal. Puis le jour où il sort son film, on sort le contre-programmation la plus off, un blockbuster rose bonbon en comédie musicale de Barbie. Ça peut pas être un add-on, là. Ça peut pas être juste le hasard. Ça doit être la date est bonne pour Barbie, je l'entends, mais ils doivent être bien contents que ce soit exactement la même date que. Je pense qu'Oppenheimer avait annoncé sa date avant. Fait que c'est
Et probablement qu'ils vont sabrer le champagne si au box-office.
Oui, c'est ça.
Barbie devance Oppenheimer, hein, ouais.
Ce que je crois possible, en fait.
Ouais, moi aussi, tout à fait.
Sur le premier week-end, je sais pas, dur à dire, mais sur le long run, je pense que Barbie, ça a l'air vraiment éclaté, drôle, coloré. Bien curieux de voir ces deux films-là. Là.
Tout à fait. Donc, moi, c'est pas mal le tour d'actualité.
Écoute, on a eu une nouvelle bande-annonce de Pixar. C'est bien normal, on a un Pixar qui prend l'affiche cette semaine. Fait que déjà, ils annoncent leur prochain projet. Je sais qu'il y a Wish. Ah, c'est ça, mais Wish, c'est Disney Animation, ça, qui sort en novembre. Fait que là, le prochain Pixar, c'est Elio, qui va sortir pour la relâche le 1er mars. Qui est quand même un addon intéressant parce que souvent, je sais pas, les États-Unis n'ont pas le même calendrier scolaire que nous, je crois. Mm-hmm. Puis y a souvent un Disney Animation, un Pixar, mais qui sort genre le 15 mars ou un gros film d'animation le 12 mars. Puis c'est comme trop tard pour nos relâches. Là, il sort souvent le dernier week-end des relâches. Mais là, en étant le 1er mars, ça tombe un petit peu plus dedans. Là. Fait que tant mieux pour nous. Qu'est-ce que ça raconte, Elio, rapidement? C'est un jeune garçon qui se fait enlever par des extraterrestres et qui est pris pour être le représentant de la planète Terre. Donc, le héros un peu numéro un de la Terre, ou quelque chose comme ça, le porte-parole un peu.
Ouais, ou en tout cas le chef de la Terre, ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais.
Fait que là, il essaye, c'est vraiment un petit teaser, là, puis là, il essaie de dire « Ah non, c'est pas moi, ah ben d'abord, on va te tuer. Ah ben oui, c'est moi. OK, c'est beau. » Fait que là, le procès commence pour déterminer la pertinence des humains, une affaire comme ça. Mm-hmm. Fait que voilà, mystérieux de même. Et c'est réalisé et écrit par Adrienne Molina, qui était le co-réalisateur de Coco. Je sais pas s'il était dans le scénario de Coco aussi, j'ai pas regardé sûrement.
Ouais, je me rappelle pas. Ouais.
Puis,
qui est un des bons Pixar, honnêtement.
Ah, vraiment, qui a fait pleurer plus d'un adulte.
Donc, j'ai bien hâte de voir, honnêtement. J'ai bien aimé cette première bande-annonce. Je trouve l'idée très, très le fun. Tu sais, je pense qu'on est plus dans un Pixar plus léger, plus de divertissement qu'un gros message.
Ouais.
Puis, mais ça a l'air très sympathique, honnêtement. Là. J'y crois pas mal.
J'ai pas regardé au générique qui on avait, si on avait des voix connues et autres.
De mémoire, non. Je pense que le plus connu, c'est Brad Garrett qui jouait dans Everybody Loves Raymond dans le sitcom. Là. Fait que, okay, ouais, c'est ouais. Fait que, mais on dirait que c'est
Brad Pitt.
Tangente de plus en plus de Pixar.
Ben, ils prennent des voice actors
ouais,
finalement,
c'est ça,
ils ont de l'expérience là-dedans et tout.
Ouais, en tout cas, ils vont prendre des comédiens, mais pas nécessairement des grosses vedettes. Là. Par peut-être les Toy Story, là, mais généralement,
ouais.
C'est un peu leur signature. Donc,
ben, Toy Story, c'est aussi qu'ils sont comme coincés avec.
Ouais.
Parce qu'ils ont fait ça en 98-19, puis là, il faut qu'ils gardent Tom Hanks, puis je sais plus, c'est Billy Crystal, ça?
Non, c'était Tim Allen.
Tim Allen, c'est ça, ouais. À jamais. Là.
Fait que, donc, à découvrir au printemps 2024 pour Elio.
Et il va sûrement avoir 2, 3, 4 bandes annonces à tous les deux mois d'ici là. Ben écoute, les nouveautés de la semaine, tu veux commencer par quoi?
Ben allons-y avec le film québécois quand même.
Bien
sûr.
Un film
qui se positionne comme un des films commerciaux de l'été, Cœur de slush de Marie-Lou Wolfe.
Exactement, d'un scénario de Sarah Maud Beauchesne, adapté de son propre roman en fait. On va suivre l'été des 16 ans de Billy, qui est une sauveteuse au parc aquatique près de chez elle, là, qui vit en campagne et travaille là en compagnie de ses deux meilleures amies et de sa grande sœur qu'elle dise parfaite, donc qu'elle jalouse un peu, mais elle reste quand même très bonne amie avec sa sœur aînée. Mais l'été de Billy va être rapidement chamboulé quand elle va, un peu malgré elle, ressentir les premiers papillons, tomber en amour, avec un charmant jeune homme un petit peu plus vieux qui travaille aussi au parc aquatique et qui est champion de vélo, avec un sportif... manuel, toujours en bédaine. Sauf que ce jeune garçon-là va également tomber sous le charme de sa sœur aînée. Fait que là, ça va mener à une espèce de triangle amoureux un peu secret. Puis Billy va devoir s'affirmer au travers de tout ça, de cet été de première fois et d'expérience.
Donc toi et moi, qui aimons bien les coming of age stories, ce genre de film-là, ton appréciation?
Ben, je dois dire que je sais que c'est un roman qui a été très populaire. Elle en a même écrit deux ou trois de
trilogie,
cet univers-là. Oui. Mais je ne les ai pas lus du tout. Là. Je ne me sentais pas le public cible du roman.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a eu une bonne adaptation de la part de Sarah Maud pour transformer ça en film. On a fait... changer un peu certains événements et autres. Fait que moi, je connais juste l'univers du film que j'ai vu. J'ai bien apprécié. C'est pas un film qui est parfait, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est... On n'est pas seulement dans la légèreté de genre, ah, oh, ça va être un rum flick, là. Je me souviens plus comment ça s'appelle, là. Mais...
Rom-com.
Ouais, c'est ça, une rom-com facile de genre, ah, ça marchera pas, mais ça va marcher, puis finalement, puis blablabla. On en a eu pas mal, quelques-uns, dont celui avec Céline Dion et autres. Mais on est plus dans la... C'est vraiment le côté récit d'apprentissage de les 16 ans. Autant, ben oui, chez une femme, il y a des problèmes ou des enjeux féminins là-dedans, mais il y a des enjeux juste d'adolescents, de personnes qui grandissent, comment on ressent les choses, comment ça nous déchire pour des raisons hormonales, pour des raisons juste réelles. Puis ce côté-là, j'ai bien apprécié. Il y a, comme on dit, c'est un film, c'est Cœur de slush, tous les jeux de mots sont là, c'est un film un peu sucré, assez léger, mais qui a une profondeur en même temps. Dans ces thèmes abordés finalement, le rôle de la famille, des amis, je peux en venir au casting, les 3-4 comédiennes principales ne sont pas nécessairement connues. Liliane Skelly, un premier grand rôle au cinéma. Il y a Camille Felton, qui est une habituée des écrans là, québécois, enfant-actrice, qui joue la grande sœur. Les deux amis du personnage de Liliane, Salma Seradji et Viviane Riel. Mais François Letourneau, en père de famille, qui est vraiment... très agréable, très convaincant dans ce rôle-là aussi. Il y a la même bouille qu'on connaît là, de toutes ces séries. C'est juste que là, il magouille pas de la drogue puis des armes. Ouais, cette fois-ci, il est bien clean comme un...
Un peu moins égocentrique comme personnage.
Ouais, c'est mais... ça. Un père récemment... Il est séparé,
ouais,
il est veuf.
Ça.
Je me souviens plus séparé.
Ouais.
divorcé, qui essaie de se remettre tranquillement en route, qui tombe un peu dans les jeux vidéo, mais qui essaie d'être présent pour ses filles, même s'il est occupé au travail, etc. Fait qu'il est plus en toile de fond, mais tu le sens qu'il est comme un peu une encre là, dans, mm-hmm. dans la famille. Bref, je t'envoie la glissade.
Ben, mes impressions rejoignent tes commentaires. Ce que j'aime et ce que j'avais entendu aussi de l'écriture de Sarah Maud Beauchesne à l'époque que Sarah Maud était sortie, c'est que ça abordait l'adolescence de manière plus franche et directe. Elle est reconnue pour cette plume-là. C'est ce qu'on voit aussi à l'écran. J'ai beaucoup aimé les répliques, les dialogues sont très crédibles. On y croit. Je trouve que c'est une approche... justement, on est moins dans la comédie romantique traditionnelle américaine à l'eau de rose, mais plus dans un film... comédie d'ado dramatique, mais plus réelle. D'ailleurs, on a eu la chance de s'entretenir avec l'équipe et je pense que c'était Mary Lou Wolfe qui abordait le film Lady Bird. Donc, il y a un côté un peu film indépendant, là, un peu dans la facture, dans le ton, que j'ai bien aimé. Et les comédiennes sont vraiment fantastiques là, ouais. les unes que les autres. Là. Puis surtout Liane Skelly là, qui porte le film sur ses épaules. C'est vraiment un talent à surveiller. Là. Elle est très convaincante, tout en retenue, en sensibilité aussi. Fait que non, écoute, honnêtement, si vous avez des ados, poussez-le à aller voir ce film québécois-là. Là. C'est rare qu'on en fait. C'est rare qu'on en fait de très bons aussi. Ben, en tout cas, c'est qu'ils peuvent accoter les productions américaines là, qu'on ouais. retrouve beaucoup sur les plateformes. Là. On sait quand même qu'il y en a une offre plus grande les unes que les autres. Là. Donc, encouragez-les à avoir du produit local, comme on dit, parce que ça mérite d'être vu, assurément.
Oui, c'est ça. Puis il va y avoir des discussions autour du film, là, comme on dit, ne serait-ce dépendamment de l'âge de vos ados. Ouais. Si vous allez voir des films avec eux ou s'ils préfèrent être tout seuls, mais il y a beaucoup de positivisme dans ce film-là. Et il est très beau aussi, ouais. le film. On a quand même ajouté cette couleur de cinéma-là. Tout est très bleu, jaune. Il y a des couleurs flash. Il est super agréable à checker.
Ouais, ça
a
été... Par les environnements, je trouve que c'est le film estival parfait parce que vraiment, ça se déroule l'été dans un parc aquatique. Fait que tu sais, c'est parfait là, pour juste aller s'évader un peu. Puis,
ouais, exact.
Fait que je trouve que les lieux du film là, sont bien servis, ajoutent vraiment un petit peu au charme du film aussi.
Il y a eu quelques difficultés de tournage, cela ouais. dit, qui ne paraissent pas dans le film, mais...
Non, on pense que tout est beau et chaud à l'écran, mais c'est
mais
pas le cas.
Mais pour les bienfaits, aucun parc aquatique, là, c'est à celui de Saint-Sauveur, je ouais. pense, mais tu sais, il n'aurait pas accepté de dire « Ah oui, fermé pendant 3 semaines en juillet, le temps qu'on vienne filmer. » Ils ont dit « Non, non, vous pouvez venir en septembre quand on va être fermé. On va garder les glissades ouvertes pour vous. » Mais c'est plus frais en septembre hein, quand on veut commencer à se baigner et tout. Fait que ça, on en discute avec les comédiennes, avec Sarah Maud et Marie-Lou également dans notre épisode spécial qui est j'ai déjà mis en ligne.
Okay.
J'avais eu le temps. Fait que depuis jeudi, il tombe pour la sortie. Fait que vous pouvez l'écouter avant d'aller voir le film pour vous convaincre. Sinon, l'écouter après. Il n'y a pas tant de spoilers, mais des fois, on fait référence à certaines scènes, certains plans et tout. Fait que c'est le fun de l'avoir vu et d'avoir ces images-là en tête avant d'en discuter. Mais... on brûle pas les punchs et le dénouement non. du film non plus dans nos discussions avec l'équipe.
Et ce qui est intéressant, c'est que Marie-Lou elle-même avoue d'être une grande consommatrice de ce genre-là.
Ouais, ben Sarah Maud et Marie-Lou,
ouais,
les deux,
c'est ça. Et ben ça se voit aussi, tu sais, l'amour qu'ils ont pour le genre et dans le scénario est à l'écran. Et Marie-Lou Wolfe aussi qui a joué longtemps dans Ramdam. Donc, je pense que cette sensibilité-là d'avoir déjà joué, d'être un comédien et d'avoir joué dans des univers d'ados, ben je pense que ça ajoute une petite touche sur sa direction probablement des comédiens et comédiennes. Je pense qu'elle a réussi vraiment à aller chercher le maximum. Puis d'ailleurs, un petit clin d'œil à elle-même dans le film. On va vous laisser le découvrir. Mais
Film marquant.
C'est très sympathique. Et sinon, ben, restez à la fin parce qu'il y a quand même des bloopers qui mettent à l'écran. Là, fait que ça aussi, c'est toujours drôle à voir. En surgénérique, comme on dit.
Puis, on y a pas demandé. Elle a dû avoir, tu sais, je fais du pouce, ce qu'on disait, une influence. Elle a dû sentir qu'elle a été une influence pour quand même une génération.
Ouais,
au-delà, parce qu'elle a fait tellement de produits jeunesse qu'au-delà des personnages qu'elle a joués, elle-même est devenue une icône. Puis là, c'était encore plus intense quand elle était en couple avec Guillaume Lemaitre-Vierge. Mm-hmm. Puis tout, là, c'était vraiment un power couple de jeunes cool. Tu sais, des galas, Carve, l'anti-galop, mm-hmm. ces affaires-là, là, qui gagnaient tout. Évidemment, il n'a pas parlé de sa rupture et de ses anciennes relations. Ça aurait été très mal vu. On est quand même professionnels, voilà.
Alors, Cœur de Slush, ben, film québécois pour vos ados à voir. Restons dans le jeunesse, disons. Okay. Allons dans le plus jeune pour les plus jeunes, oui, effectivement. Il y a Elementals de Peterson.
Oui, élémentaire au Québec. C'est un film d'animation de Disney, des studios Pixar particulièrement, qui offre toujours pas mal des films de haute qualité dans le domaine d'animation. On va être à Element City, qui est une mégapole où cohabitent des individus, mais qui sont tous des différents éléments, des quatre éléments fondamentaux de la nature, donc l'eau, la terre, l'air et le feu. Il n'y a pas le cinquième élément qui est l'amour.
Ooh.
Ou peut-être, car dans cette cité très, très unique, très futuristique à sa façon, il y a Bernie Lumen, je pense, qui est une petite flamme, là, un petit monsieur flamme, qui va fonder une boutique destinée aux siens avec juste des produits de feu que les gens de feu consomment. Et tranquillement, on va comprendre que le quartier grandit et qu'il va vouloir éventuellement léguer à sa fille Amber sa boutique parce que c'est un porte-étendard un peu du quartier et tout. Sauf qu'elle veut rentrer là-dedans. Elle a de la misère, cela dit, à contrôler sa colère. Elle a des excès, des fois, de frustration qui la font comme pouf, exploser. Et ça va provoquer éventuellement une fuite dans un tuyau d'eau de la boutique. Et là, c'est un problème pour les flammes. Mais dans ce tuyau-là va surgir Wade, qui est un élément aquatique qui est chargé de l'entretien des canalisations de la ville. Et lui est très généreux et candide dans sa nature, très empathique, très positif, quoique très émotif également. Fait que ce maladroit fonctionnaire-là va essayer d'aider Amber à régler leurs différents problèmes et va naître un peu de ça peut-être une petite étincelle, une petite flamme amoureuse. Mais tout ça se ferait contre la volonté de son père qui ne croit pas et de sa mère qui ne croit pas que les éléments doivent être mélangés, les gens de feu doivent rester ensemble. Alors, dans cette histoire, il y a plusieurs parallèles avec le monde réel. On s'en cachera pas.
Bien sûr. Donc, un film qui devrait irriter le gouverneur de Santis en Floride. Ouais. Et les tenants républicains anti-immigration. Parce que c'est un film vraiment qui porte sur les immigrants, la part des immigrants. Donc, le message est assez clair, mais en même temps très personnel au réalisateur Peterson. Donc, en allant fouiller un petit peu, c'est vraiment inspiré de sa jeunesse où lui était famille d'immigrants coréens.
Ouais, c'est ça.
À New York. Donc, évidemment, il a grandi dans la différence et tout ça. Donc, c'est une histoire qui lui est très personnelle. 27e film de Pixar, doit-on quand même mentionner.
Ah, ouais,
okay. Gamin, qui dit Pixar, au niveau du design, c'est toujours intéressant. Au niveau du concept de l'histoire aussi, il y a des choses intéressantes. Mon seul questionnement, c'est que je me demande si les plus petits vont vraiment adhérer. Donc là, c'est peut-être aux parents de voir. Je trouve que c'est quand même un Pixar, mais qui vise un public cible un peu plus âgé, là. Peut-être qu'on est dans du 8-10 ans que du 5-6 ans. Là.
Ouais, OK.
Ce que j'ai trouvé, parce qu'il n'y a pas tant d'humour slapstick visuel que ça. Donc, je vais se juger. Mais c'est quand même un film là, qui est quand même à message, évidemment. Donc, ouais, c'est ça.
Ouais, mais le message est dans les deux sens aussi. Là, ouais. Par rapport, c'est vraiment t'as le point de vue de tous les autres éléments versus ceux du feu, mais ceux du feu versus les autres éléments. On est quand même beaucoup centré autour de l'eau et du feu. J'avoue que le vent et la terre sont en rôle secondaire. Ouais. Quoique si c'est un univers qui développe puis qui, à partir de là, ils peuvent faire 2500 films avec des personnages puis des fondements, des trucs différents. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, c'est assez chargé.
Oui, c'est assez dense ça, comme
mais ici. Oui, c'est ça, on parle un peu de la bureaucratie, on parle de l'amour, de l'émancipation, parce qu'il y a ça aussi. Son père rêve qu'elle hérite de la boutique, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a envie? Est-ce que ça serait juste pour lui faire plaisir à lui? Fait que ta relation par rapport, là, tu parlais d'immigration, mais aussi les parents font des sacrifices pour leurs enfants. On est venu ici pour que vous ayez faire des études, mais si jamais t'as envie d'être humoriste, là, je sais que j'ai entendu beaucoup de parcours d'humoristes au Québec. C'est un peu ça. Là, leurs parents étaient comme, mais là, j'ai pas fait tout ça pour que t'ailles pas à l'université. Ouais. Là, puis c'est comme, ouais, mais c'est ça. Là. Où est ton rêve? En même temps, j'ai un ami qui avait dit ça. Si si je peux faire ça, justement, être dans les milieux des arts, c'est bien parce que tu as réussi ton sacrifice puis que je suis pas obligé de juste aller faire un métier pour faire de l'argent puis qui rapporte puis qui donne une... Tu sais, j'ai la sécurité de pouvoir prendre des risques grâce à vous, tu sais. Mm-hmm. Fait que, bref, c'est pas nécessairement ce qui est adopté là-dedans exactement comme angle, mais... C'est ça qui est présenté, mais comme tu dis, ouais, c'est super beau. J'ai passé un moment correct, mais pour moi, c'est pas personnellement lui qui m'a le plus marqué, mais les critiques en général, ce matin, avant d'enregistrer, qu'on regardait, sont vraiment très bonnes. Fait que,
ouais, ouais, tout à fait.
Allez-y, là, si vous êtes attiré par le film, comme on dit, il y a énormément de points positifs derrière Élémentaire, qui est aussi disponible en trois dimensions, comme tout. Les Pixar, finalement, depuis une couple d'années.
Des petits fun facts. Donc, Peterson, le réalisateur et co-cinéaste, fait aussi des voix dans les films de Pixar.
Ah ouais, OK.
Ouais, donc c'était lui qui jouait Émile dans Ratatouille.
Qui était un des rats, mais pas... Rémi, c'est le rat principal.
Ouais, c'est le rat principal.
Je sais pas si c'était son ami rat plus baquet ou...
Et puis, tout dernièrement, il jouait Sox dans Lightyear.
Ouais, le petit chat, OK, ouais.
Le petit chat robot. Puis d'ailleurs, c'est un des rares Pixar qu'on n'a pas toujours... Tu sais, on n'a pas l'animal ou le robot, en tout cas le personnage secondaire
ouais,
cute,
ouais,
là, qu'on va
ça.
Vendre des peluches et des figurines. Il est quand même absent dans ce film-là.
Ouais, ben il présente plusieurs comme bébés éléments qu'on voit au travers, là, un petit bébé flamme puis des choses comme ça, mais moi, ouais, il n'y a pas de... Ouais. Il y a un petit garçon arbre qui a un kick sur la petite fille flamme.
Ouais, c'est vrai que lui, il est un peu cute. Fait que
c'est ça. Je ne sais pas comment... Comment on va y aller, là? Mais d'après moi, on va trouver le moyen de capitaliser sur la marchandise, comme on dit.
Et puis, pour... vas-y.
Ah non, j'allais ailleurs. Fait
OK,
que,
ben, et pour créer cette langue des éléments de feu, on a approché le spécialiste de David J. Peterson qui avait travaillé sur Dune et Game of Thrones.
OK.
Donc, c'est lui qui a inventé cette langue...
juste au début du film à peu près là.
Occasions, des fois ils vont lancer un ou deux mots à travers des mots en anglais là.
C'est fait ça qu'on comprend qu'ils sont un peu une espèce de peuple nordique de feu ou je sais pas quoi ou sudiste, je sais pas dans ce cas-là. Puis je pense pas qu'on l'a mentionné, mais ça rappelle quand même un peu Inside Out d'une certaine manière, veut pas. C'est sûr, la confrontation des éléments, l'autre c'était des sentiments, la flamme, puis la flamme en plus, elle se fâche, et que tout ça est un peu lié.
Que
les
éléments sont identifiés vraiment une émotion propre, là, où les éléments de l'eau sont beaucoup plus émotionnels, sensibles, évidemment, et ceux du feu, ben, plus
caractériels, ouais.
Évidemment, plus intenses et passionnés. Là,
c'est
donc,
ça. Fait que, là, s'arrête la comparaison, là, puis évidemment, c'est très coloré et tout. Après ça, Inside Out était plus sur le grandir, puis les souvenirs, puis ces choses-là, là, être en paix avec ses émotions, là, on est un petit peu moins
là-dedans. Joue dans les concepts quand même un peu plus abstraits qu'une simple histoire d'un cow-boy et d'un... Et d'un astronaute.
De deux jouets en chicane, deux jouets jaloux.
Pour les amateurs de super-héros, donc The Flash prend d'assaut les écrans de Andy Muschietti.
Je dirais, prend finalement l'affiche. On y reviendra par après, mais c'est vraiment...
une longue saga.
Oui, exactement. On va suivre Flash Barry Allen, joué par Ezra Miller, là, qu'on a vu dans tous les précédents films depuis l'ère Zack Snyder. Mm-hmm. Fait qu'enfin, son film au cinéma. On commence ça au moment où le père de Barry doit comparaître en justice car il est le principal suspect dans le meurtre de la mère de Barry, survenu quelques années auparavant. Mais Barry sait que c'est une erreur, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé, mais que les preuves sont juste contre lui. Fait qu'il va utiliser sa super vitesse et non contre les indications de Batman pour remonter dans le temps puis aller modifier juste une petite affaire pour éviter que sa mère meurt puis que son père se retrouve devant la justice comme ça. Sauf qu'il va se retrouver coincé dans une ligne du temps altérée où il va être jumelé à un jeune lui-même qui n'a pas encore reçu ses pouvoirs et où les super-héros sont pas les mêmes et pour la plupart n'existent pas, ce qui va laisser le champ libre au fameux général Zod qui vient envahir la Terre parce qu'il veut tuer le jeune Superman. Fait que là, il va se passer plein d'affaires à partir de là qu'on va vous laisser découvrir.
Ouais.
C'est ça la prémisse de ce film de quoi, 2h25 à peu près. Mais très excitant, là, très dynamique comme film.
Ouais, ben on sort un peu de l'esthétisme lourdeau de Zack Snyder.
Oui, définitivement.
Ce qui fait du bien. Des Mousquetiers, c'est quand même le réalisateur des hits, entre autres. Donc, nous offre, oui, un film plus léger, je pense plus... comment dire, crowd pleaser.
Oui, il y a du...
dans la lignée de Wonder Woman. Là, moi, je mettrais pas loin de là. Donc,
beaucoup d'humour.
Ouais, c'est ça, beaucoup d'humour, mais en même temps, beaucoup de sensibilité, de vulnérabilité au point de vue du personnage principal de Barry Allen. Et ça, je pense peut-être dû au fait que c'est une femme scénariste, Christina Hodson, quand même, qui nous avait écrit Bumblebee, et qui était le Transformers précédent, lui, qui vient de sortir, mais aussi Birds of Prey avec Harley Quinn. Donc, elle est habituée d'écrire, justement, je pense, des films qui ont un peu plus de cœur pour ce genre-là. Donc, moi aussi, j'ai vraiment bien apprécié cette dualité-là du personnage de Barry Allen, incarné par Ezra Miller, là, qui, par moments, va pleurer, va vraiment montrer ses émotions.
Surtout que là, ce qui est, il est son propre comic relief parce que déjà dans les autres Justice League, c'était toujours un peu à la petite Spider-Man. Là. Il est comme plus jeune, il est plus nouveau dans l'affaire de ses pouvoirs, cette affaire-là. Là, on comprend qu'il est rendu mature, mais il se retrouve avec un lui-même de 18 ans complètement immature. Mm-hmm. Fait que, puis qu'il n'a pas la même sensibilité étant dans un univers où sa mère n'est pas morte, puis etc., etc. Alors, il se donne la réplique à lui-même. C'est un film qui aurait été genre un chaos il y a comme 20 ans, là, mais là, numériquement, tous les effets, ça passe comme super bien de jouer en double dans son film. Juste parenthèse, tu as louangé la scénariste Christina Hodson, mais sais-tu qu'est-ce qui est sur son IMDb dans ses films à venir?
Non.
Fast X Part 2, c'est elle qui sera au scénario. Alors, ça va peut-être enjoliver les enjoliveurs, voilà.
Donc, on va voir Vin Diesel pleurer peut-être.
Et on n'aura pas le choix. il va arriver une semaine où on n'en parlera pas, mais il y a tout le temps quelque chose comme ça qui fait qu'il faut que je parle de rapide et dangereux.
Raison principale. C'est le grand attrait de voir The Flash, on le voit dans les bandes-annonces depuis quelques temps, évidemment, c'est le grand retour de Michael Keaton en Batman et Bruce Wayne, qu'on n'avait pas revu depuis 1992 pour les gens de ma génération qui se rappellent très bien.
Ah, ben moi, je m'en souviens, ça a marqué ma jeunesse.
Oui, quand même. Okay. Écoute, moi, j'étais en file en 89 pour le Batman lorsque c'était sorti. On avait quitté l'école à midi après nos examens du ministère le matin pour faire la file pour le film de 7 heures le soir.
OK.
Donc, moi, j'avais vraiment trippé sur cette Batmania à l'époque. Évidemment, très déçu qu'il ne soit pas dans le Batman Forever. Donc, tu sais, on a toujours un petit pincement que c'était un rendez-vous manqué parce qu'à l'origine, il aurait dû être dans le film. Et quand Tim Burton a quitté le projet, Keaton aussi, finalement, a décidé de se retirer. Donc, c'était vraiment, vraiment le fun de le revoir dans ce rôle-là si iconique qu'il porte bien encore aujourd'hui, d'entendre la musique des thèmes de Danny Elfman. Écoute, ça a provoqué la chair de poule.
Puis en plus, comme on est dans sa ligne du temps à lui, ben on revoit plus sa Batmobile, ses gadgets, son esthétique à lui. C'est un film, écoute, sans vouloir divulgacher, qui c'est un crowd pleaser. Il y a du fan service. Vous allez voir des caméos à gauche puis à droite, un après l'autre. Et c'est probablement, à mon sens, un des meilleurs films issus d'un ce qu'on appelle un development hell, donc un enfer de développement. Écoute, depuis 2004, qu'il travaille sur l'idée de faire un film de The Flash. Ça, c'était bien avant l'arrivée de Zack Snyder et de tout, même avant les Batman Begins et toutes ces choses-là. Et ben en fait, à la base, c'était tout de suite, on avait approché David S. Goyer, qui avait travaillé sur Batman Begins et sur Blade 3. Fait qu'on voulait qu'il y ait, je pense, Ryan Reynolds dans le rôle de Flash. Puis là, il y a quasiment 20 ans, là, un 15 ans d'alternance de réal, acteur, le réal kit, change de réal, l'acteur kit, change d'acteur, revient. Il y a eu Adam Brody attaché à ça, il y a eu Sean Levy. J'en passe une méchante traite, je sais pas si t'en as noté.
Oui, tout à fait. Donc, il y a eu après, lorsque Reynolds et Goyer ont quitté le projet, donc George Miller, le réalisateur de Mad Max, avait annoncé en grande pompe un film de Superman contre Batman, puis on devait installer l'univers de Justice League à ce moment-là.
OK.
tout ça est tombé à l'eau assez rapidement, mais effectivement, Brody avait été choisi pour le rôle de Barry Flash. Allen. Finalement, on tombe en 2018, où là, Ezra Miller fait partie de l'univers. Il est déjà apparu, je pense que c'était Batman contre Superman à ce moment-là. C'était James Wan, en fait, qu'on lui a offert le projet, mais on lui a dit à James Wan, « Veux-tu faire Aquaman ou veux-tu faire The Flash? » Fait que finalement, James Wan a choisi Aquaman. et suivi Phil Lord et Chris Miller, qui ont connu un bon succès. À ce moment-là, c'était le pleu des hamburgers, des trucs comme ça, là, jeunesse. Je pense que le film Lego était tout sorti, ou en tout cas, peut-être était déjà en préparation. Ils ont fait un jet de scénario. Finalement, ils ont décidé de décliner l'offre de tourner le film pour faire, lui, de Star Wars Rogue One, que finalement, ils ont été renvoyés.
C'était en fait, Rogue One ou Solo?
Solo, excuse-moi. Ouais, je me suis trompé, oui, Solo. Ensuite, on a eu Rick attends, tu peux, j'ai mal écrit mon nom.
Fumiyu
Yima. En tout cas, j'ai peut-être massacré son nom, désolé. Qui tournait finalement des épisodes de Mandalorian et tout ça. Et on a eu John Francis Daley, Jonathan Goldstein, qui nous ont donné Donjons et Dragons récemment.
Ben c'est ça, ils ont fini par quitter et sont allés faire Donjons, mais eux, ils sont crédités au
j'ai
vu
pour
à
l'histoire,
fin.
Effectivement. Donc, c'est on ça. A conservé certains éléments de leur scénario pour ce film-là. Donc, effectivement, ça a changé beaucoup, beaucoup de mains plusieurs fois pour arriver à ce produit-là, enfin. Et il faut dire que le film était repoussé, donc à chaque fois qu'il y avait des délais, là, Ezra Miller ne tombait plus disponible parce qu'il est allé tourner des films aussi, des Animaux Fantastiques, pour lesquels il était sous contrat aussi. Fait qu'il y avait toujours des enjeux. Dès qu'on était prêt, là, c'était Miller qui n'était plus disponible. Quand lui devenait disponible, ben, finalement, les autres avaient quitté justement pour différentes raisons. Fait qu'on est comme un 3-4 ans,
il y a
là, c'était une danse comme
COVID
ça.
La COVID aussi qui a repoussé. Puis finalement, ils l'ont tourné, je pense, en 2021. Ouais. Ils ont repoussé la dernière sortie pour faire quelques reshoots et un remontage. Puis ça donne quelque chose qui a pas l'air d'un accident de char, finalement. Ouais. Ça a pas l'air d'un film qui a galéré comme ça, qui a eu 27 scénarios différents et tout. Malheureusement pour lui, c'est pas nécessairement un point négatif sur le film, c'est sur son timing. Les Spider-Man, les Doctor Strange sont sortis, même le dernier Spider-Man animé. Ils ont beaucoup joué dans les multivers, dans les caméos, dans le fanservice. Fait qu'on dirait qu'il arrive un petit peu en retard à la ligne d'arrivée pour être super frais là-dedans, mais ce qu'il fait, il le fait bien quand même. C'est juste qu'il il aurait pu être le grand gagnant s'il était sorti en 2018.
Tout à fait, tout à fait. Parce que non, l'angle est quand même assez rafraîchissant, où on joue avec le temps. D'ailleurs, on fait beaucoup de clins d'œil à Back to the Future. On s'amuse avec ça aussi. Donc, quand même dans le ton, dans l'histoire, c'est quand même assez rafraîchissant, là, surtout de la part de cet univers-là de DC Comics, là, qu'on est dans des films plus sérieux, un peu plus intenses. Là, ça fait du bien de rire un peu puis de pas trop se prendre au sérieux. À noter que dans ce film-là, on a une Superman, en fait, qui est la Supergirl.
Ouais.
Donc, le Superman n'existe pas dans cette timeline, dans cette lignée du temps-là, qui est joué par Sacha Calais, qui venait de la télé... de Young and the Restless, là, du roman Savon. Mais Rachel Zegler avait auditionné pour Supergirl. Donc,
puis finalement, on l'a mis dans,
Shazam. Ouais, c'est ça.
C'est
une critique que je peux faire, c'est peut-être un peu encore ce qu'on fait. Je trouve qu'on avait manqué avec Cavill et son Superman. Je trouve qu'on est dans le même type d'un Superman fâché, très sombre, ténébreux, alors que c'est Batman qui devrait être plus ça. Et alors que Superman, à la limite, c'est un personnage très lumineux, rempli d'espoir. Fait que je trouve qu'on n'a pas réussi encore à vraiment capturer c'est quoi l'essence du personnage de Superman. Donc j'espère que Gunn le fera bien pour son film, là. Fait que moi, ça a été peut-être un petit peu ma déception, bien que j'étais content de voir qu'on inverse les rôles, puis que ça soit une femme là, qui incarne ce personnage-là là, et qu'on la voit en action. Mais je pense qu'on avait mieux réussi, honnêtement, la série télé Supergirl, qui a quand même eu quelques saisons avec Melissa Benoit, là, qui je sais qu'elle avait eu de très bonnes critiques, puis bien appréciée des fans, là, justement, qui était peut-être plus proche de Christopher Reeve dans son interprétation. Fait que, bref, peut-être un petit peu un rendez-vous manqué, mais sinon, pour Keaton et son Batman, je trouve qu'on a fait un bon boulot. Là. On aurait pu aussi passer à côté de la traque, mais sur ce côté-là, il y a un rôle quand même assez important aussi là, dans l'histoire. Là. Fait que c'est le fun, c'est pas juste un petit caméo, là, on s'en sert bien. Là.
Ouais, ouais. Mm-hmm. Puis écoute, je sais pas si on devrait ou pas, mais moi je préfère l'accuser. C'est une drôle de façon de dire. Ezra Miller a été un acteur controversé depuis un certain temps parce qu'il y a eu des démêlés judiciaires et de mauvais comportements. Écoute, c'est quelqu'un qui semble avoir beaucoup de problèmes de consommation d'alcool, malheureusement. Puis ça a mené à quelques événements là, de violence, pas conjugale, mais envers les femmes tout. Il a été accusé aussi de vol à un moment donné. Il est rentré dans une maison pour voler de l'alcool, des choses comme ça. Mais il a mentionné... accusé de souffrir lui-même de problèmes de santé mentale et dit qu'il a commencé à suivre un traitement puis des thérapies suite à ça. Fait qu'il est en voie de rédemption de tout ça. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que cette espèce d'enfant star riche, il l'a eu difficile là-dedans. Fait que on lui souhaite bonne chance. Je sais qu'il y a des gens... Je préfère le dire parce qu'il y a des gens qui... Je sais pas, séparer l'œuvre de l'artiste et tout, si ça a été tourné avant la plupart de ces événements-là, des choses comme ça. Je sais pas tout parce que je cherche pas tous les potins et les événements, mais les pages Wikipédia en parlaient un peu quand même. Mais,
oui, voilà. À suivre.
Ça rajoute encore plus à la complexité de DC, oui, de comment ils rebootent, qu'est-ce qu'ils font avec leurs comédiens et tout. Mais ben là, ce qu'on voit avec aussi. Comme on disait, Jonathan Majors et tout, là, c'est difficile d'avoir une méga star puis s'assurer que son comportement reste droit et tout. C'est pareil chez les sportifs. Puis,
Puis c'est le risque des signes à long terme là, quand tu t'engages pour plusieurs années sur plusieurs films. Là, ça peut te péter en pleine face, comme on dit.
Ah, puis je serais pas surpris qu'on les voit pas, les contrats. On parle pas mal moins des contrats de comédiens que des contrats de sportifs, là, mais qui doit avoir des clauses comme ça. Là, de « on peut te... Toi, tu peux pas nous quitter, mais nous, on peut te domper avec une semaine de préavis. Puis quasiment, tu nous dois de l'argent si ton comportement scrappe une sortie de film puis des affaires de même. »
Et d'ailleurs, Ezra Miller a été écarté de toute promotion du film aussi. Je ne sais pas si tu as vu ça.
Ah non, je savais
même
pas.
Même à la première, les passants coup de vent.
Ok, il
les
est
médias,
là, mais pas le droit d'y parler.
Non,
puis,
c'est ça, je pense qu'on.
Parler à Michael Keaton puis à Andy Muschietti.
Ouais.
Je pensais que c'était un Italien, mais c'était un Argentin.
Argentin, moi, c'est ça.
Je pense que c'est Andrés, son vrai nom, mais comme plusieurs, c'est donné un petit surnom américain plus facile.
Pourquoi pas. Donc, The Flash, si vous cherchez un divertissement très léger où, évidemment, on laisse toutes les cohérences scénaristiques de côté parce qu'il n'y a pas grand-chose qui fait sens dans le film, mais vous allez rire. Mais il y a des bons moments.
Moi, je trouve qu'il est construit de manière que... Quand tu l'écoutes, tu t'en rends pas trop compte quand tu y réfléchis après. Mais c'est vraiment, vraiment supérieur à Black Adam puis au Shazam 2. C'est quand même fait avec soin et tout.
Entièrement d'accord.
Dans un autre registre, on retourne à Tomber en amour. Écoute, Les enfants des autres de Rebecca Slotowski, son cinquième long métrage. Écoute, c'est une scénariste et une cinéaste française. Fait que c'est pas tous ses œuvres qui sont rendues jusqu'ici, mais il y avait Belle Épine et Grand Central, là, ses premiers films au début des années 2010, qui avaient pris l'affiche dans certains cinémas. On est avec Virginie Efira et Roche Dizem, qui est dans à peu près... je pense que c'est parce que les trois films qu'il a fait en 2022 sont sortis en quatre mois ici, là, dont un la semaine dernière. Là. Fait qu'il est en train de se faire brûler ici malgré lui. On suit principalement Virginie Efira, qui est une enseignante de 40 ans et sans enfant, qui va tomber amoureuse d'un père célibataire, donc joué par Zem, d'une fillette de 4 ans, puis avec laquelle, cette fillette-là, elle va développer un lien quand même très fort. Elle va vraiment apprécier son rôle de belle-mère. Mm-hmm. Puis on sent qu'elle-même, la fenêtre de conception se referme, puis elle souhaiterait vraiment avoir un enfant, alors que lui est plus en train de composer avec la relation de son ex, puis on sent qu'il n'est pas nécessairement pressé à ça. Le film se déroule pas seulement sur cet événement-là, c'est plus une genre de chronique où on voit comme toute cette espèce d'évolution du quotidien simple, mais bien réel. Comme l'état amoureux, leur première date, comment ça avance, les jours qui vont passer, les liens qui se tissent, on voit qu'ils vivent de plus en plus l'un chez l'autre. La dynamique aussi que lui, une semaine, il a son enfant, l'autre semaine, il n'a pas sa fille. Des petites blessures, des petites victoires. Fait pas non plus à la Linklater, là, c'est pas sur 30 ans et tout. Là, on est peut-être sur sur un an ou deux, le film environ, qui se déroule. Des moments de joie, de tristesse. Fait que moi, ça m'a vraiment beaucoup touché, ce film-là. C'est sûr que Efira est comme une actrice qui n'a plus rien à envier à personne. Fait que de jouer ça, ce désir d'avoir des enfants, mais sans être une espèce de mélodrame, puis une réalisation très sensible. Là. Des fois, on dirait qu'on qu'on dit ça sans savoir ce que ça veut dire, mais c'est vraiment les mots que j'avais quand je suis sorti de ce visionnement-là.
Oh oui, c'est tout en douceur, tout en pudeur. Écoute, le duo de comédiens sont fantastiques ensemble. D'ailleurs, la réalisatrice l'avait écrit pour Rojdi Zem. Elle avait déjà en tête à l'écriture. Okay. Donc, elle voulait justement le montrer sous un autre angle, parce que d'habitude, elle va faire des flics, des voyous. Mais ouais. Là, c'était comme un rôle plus tendre, comme un homme plus moderne. Là. Mm-hmm. Donc, présenter ce modèle-là. Donc oui, c'est bien écrit, une belle histoire. Je sais pas. j'ai de la misère à trouver peut-être des qualificatifs, parce que c'est quand même à la base une histoire simple, mais
oui, absolument,
mais c'est très touchant. Puis
c'est le quotidien qu'on filme, ouais, là. Ouais, c'est on est complètement les deux pieds sur terre versus Flash, là. Ça, il n'y a pas de doute.
Ouais, ouais. Donc non, puis Virginie Efira, comme tu l'as dit, des grandes actrices de sa génération qui a une force d'écran, mais en même temps avec une simplicité.
Oui, c'est ça. Elle joue quelqu'un qu'on connaît.
Ouais, 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 c'est ça. Ouais. Ça peut être des voisins, des gens de la famille qui vivent cette histoire-là. D'ailleurs, la réalisatrice Rebecca Zlotowski s'est inspirée de sa propre vie. Hein. Je ne sais pas si tu avais vu ça.
OK, non, je ne savais pas.
Donc, oui, elle était en couple comme ça. Elle-même n'avait pas d'enfant à ce moment-là. Puis donc, elle avait juste le goût d'écrire une histoire simple. Elle avait été écrite pendant la pandémie. Alors, elle est retournée un peu à la simplicité, à la base de sa vie, d'elle-même. Et puis, elle a pondu ce scénario-là qui mérite d'être vu. Si vous aimez ce genre de film français, c'est vraiment un film de qualité.
Il y a peut-être une petite surutilisation des fermetures d'iris, là. Ouais. Fermetures en cercle.
Les transitions.
Oui, c'est ça, il y en a une couple. J'ai lu que ça venait Truffaut, je pense, faisait ça beaucoup, mais je connais pas le grand cinéma français, la Nouvelle Vague. Ouais, mais il l'a comme trois ou quatre reprises, puis c'est toujours des effets audacieux, là. Il est quand même un peu subtil avec un genre de dégradé, là. C'est pas le cercle-cercle comme Star Wars, là, très sec, mettons, là. Ouais. Mais ça m'a fait sourire. Puis là, j'étais OK, deux fois, trois fois. Puis, mais c'est tout. Ça n'enlève rien au film. Ouais. C'est juste, des fois, c'est le genre d'affaire qui me sort un peu du film.
La cinéaste fait jouer même son père, Michel, qui joue le père de Virginie dans le film.
Ah, OK.
Donc, comment d'où ce côté-là, héritage juif qu'on voit quand même dans le film où la religion prend une certaine place, en fait, avec ce personnage-là.
Oui, c'est ça, mais tu vois que
elles ne sont pas pratiquantes, mais
c'est ça, c'est dans les comment ça, tu dis, dans les habitudes, dans les certains rituels. C'est comme, ouais. Ah oui, il faut aller à la messe avec papa, puis à Noël, puis ben à Hanouka, puis des choses comme ça. Là. Fait que, ah oui, oui, j'ai beaucoup aimé. Dans les autres sorties, il y a deux films que nous n'avons pas vus. Il y a le drame sentimental Past Lives de la cinéaste canado-coréenne Céline Song, qui va suivre en trois temps à peu près la relation à distance entre une dramaturge puis son amoureux d'enfance. Dans le fond, il faut qu'on va voir leur jeunesse à Séoul. Après ça, elles vont partir au début à Toronto puis éventuellement à New York, où là, à distance avec du web et tout, ils vont pouvoir communiquer, me trouver ça un peu bizarre, puis se revoir plus tard à l'âge adulte, alors qu'elle est mariée, mais cette espèce d'amour impossible, comment elle va être vécue. Et j'ai super hâte de voir ce film-là, qui est vraiment louangé là, partout où il passe. C'est un film de chez A24. Il a été présenté à Sundance, à la Berlinale. Il ouvre à Montréal ce week-end, c'est pour ça que j'en parle, mais ici à Québec, on va l'avoir juste le 30 juin, puis A24 fait souvent ça, là, même pour les États-Unis, il était très limité, puis de semaine en semaine, là, c'est ce qu'on appelle, comme je dis parfois, une sortie plateforme, là, fait que de palier en palier, et non pas une sortie sur les plateformes, à ne pas confondre. Fait que, bref, on dit beaucoup de bien de Past Lives, mais je crois qu'il va être disponible seulement en version anglaise. Et il y a la comédie d'horreur de Blackening, qu'au début, je pensais que ce serait un peu de la vidange, mais finalement, j'entends de très bons échos sur le film. C'est plusieurs personnes réunies dans un chalet, en fait, sept Afro-Américains qui sont la cible d'un homme masqué et armé qui va les obliger à répondre correctement à des questions d'un jeu de société sur l'histoire des Noirs aux États-Unis. C'est une sous forme de comédie d'horreur, mais c'est une satire sociale, en fait, surtout, sur les conditions de vie actuelles des Afro-Américains. Et c'est l'adaptation, la version long métrage d'un sketch, d'un court-métrage sketch viral de 2018 de Wayne Perkins, qui co-écrit le film et joue dedans, en plus. Fait qu'on va jouer beaucoup sur les stéréotypes entourant l'image des Noirs, puis le classique sort funeste qui est toujours réservé aux Noirs dans les films d'horreur. Mm-hmm. Parce que, comment ça s'appelait, pas American Pie, mais l'autre, les Scary Movie jouaient un peu là-dessus, mais là, imaginez que tous les personnages sont afro-américains. Fait que je sais pas si ça va m'adonner d'aller le voir, mais ça pique ma curiosité.
Ouais, moi aussi.
Les messages sociaux, j'aime ça. Et la semaine prochaine, on vous parle de Asteroid City, le nouveau Wes Anderson, entre autres. Je sais qu'il était annoncé, c'est le même principe, le 16 juin, mais ils mettent ça sur tous les posters, toutes les bandes annonces, mais finalement, c'est dans quelques villes bien limitées. J'ai vérifié avant d'enregistrer, puis même à Montréal, il sort juste le 23 juin. Alors, parfait pour la Saint-Jean.
Ouais.
Non, c'est ça. Il n'y a pas de film québécois la semaine prochaine non plus, fait que c'est vraiment cœur de slush là, qui s'établit au Québec jusqu'à la mi-juillet. Alors, comme d'habitude, ben, en fait, j'aurais dû voulu préparer d'Asteroid City. Je sais pas,
Écoute, je sais pas trop.
C'est un Wes Anderson, hein, mais c'est charmé, je pense.
C'est toujours un objet de curiosité. C'est sûr qu'esthétiquement, c'est toujours beau. Alors, on espère juste embarquer dans l'histoire puis être charmé. Mais...
Il avait joué à Cannes, hein, je pense. Ça se peut.
Okay,
j'ai pas regardé les échos ou quoi que ce soit.
Mais il me semble que c'est assez divisé, là.
Fait OK.
C'était pas un Anderson unanime, là. Comme The Grand Budapest Hotel.
Mais je sais pas s'il va arriver à en refaire à un moment donné, quand t'es rendu, je sais pas c'est quoi, son 8, 9, 10e film. C'est dur de redevenir unanime. Là. À un moment donné, les gens ont tellement d'attentes préfaites sur tes affaires. Déjà, il y en a qui savent quand je travaillais il y a plusieurs années encore. Au guichet de cinéma, puis qu'on disait « Ah, c'est quoi tel film? » Puis là, je disais « Ah, c'est un Woody Allen. » Puis tout de suite, en partant, on dit « Ah, je veux rien savoir. » Là, ça a mal vieilli, cet exemple-là, parce que Woody Allen, on l'a eu plein d'autres raisons. Mais avant qu'on sache tout ça, puis qu'il y avait encore sa cote de popularité, là, à l'époque de, justement, Minuit à Paris, puis des choses comme ça, c'était comme, d'entrée de jeu, il y en a qui disaient « Je le sais que je vais haïr ça. » Ben, tu sais, je pense que Wes Anderson a sa forme aussi, son visuel, sa façon de dialogue et tout, fait que il y en a déjà qui savent que ça les intéresse pas et d'autres qui disent « Je veux même pas savoir c'est quoi, je vais être là, t'sais, c'est sûr. » Alors, bref, d'ici là, contactez-nous comme d'habitude au balado au singulier à commercialmonciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Monciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, puis moi, je pense que je vais aller me chercher une bonne petite loche aux framboises.
Petite loche bleue.
Bien sûr.